3, 2, 1, injection.
Et voilà la phase d'apesanteur. Hop là. On monte au plafond. Hop là. Et je flotte. C'est tout à fait extraordinaire. C'est pas comme dans la mer, c'est pas comme dans l'air, c'est quelque chose d'unique. Voilà, je redescends. Extraordinaire.
Steady flight.
C'est un moment unique et visiblement enthousiasmant qu'a vécu Sophie Becherel, un vol en apesanteur. Pour quelques secondes, ne plus sentir le poids de son corps glisser dans les airs. C'est une sensation que peu d'hommes et de femmes connaissent, hormis la poignée d'astronautes dans le monde, mais aussi des scientifiques, des ingénieurs qui sont amenés à conduire des expériences dans un avion très particulier, l'avion 0G. Il appartient à Novespace. C'est la compagnie qui organise ses campagnes de vol. Il y en a 6 par an, dont celle du CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Ça doit être à 3500 par vol, je crois, dans ces eaux-là. J'ai volé dans l'espace 2 fois plus longtemps que Gagarine, c'est pas mal. J'aime bien cet exemple, ça, c'est agréable.
Pour atteindre ces moments sans pesanteur, l'avion effectue dans le ciel des paraboles, des cloches en résumé. Sa trajectoire n'a rien d'un vol classique. Il cabre tellement qu'il semble s'approcher de la verticale. À plus de 8000 mètres d'altitude, l'avion descend alors en chute libre sur 2 km. C'est là que débute la vingtaine de secondes d'apesanteur. Cet état qui annule l'attraction terrestre est précieux pour le monde scientifique. Il permet de mener des expériences dans des domaines de recherche variés, la physique, la médecine et bien évidemment le secteur spatial.
Notre équipement ne fonctionne que sur orbite, sans gravité. C'est-à-dire que si on le déployait au sol aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il se déploierait mal ou qu'il s'endommagerait. Lorsqu'on va le déployer dans l'espace, il devrait bien fonctionner.
Ces vols paraboliques se font toujours au-dessus de la mer pour des raisons de sécurité. Ce jour-là, Sophie Becherel et Hélène Langlois ont décollé de Bordeaux. Elles ont vécu cette expérience au large de la Bretagne. Embarquement immédiat pour un avant-goût de l'espace. Vol en apesanteur, la science sans gravité. Voici leur reportage.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Alors, nous y voilà.
Ah, voilà.
Donc, il est 7h30 du matin. Et donc, c'est le début de cette 61e campagne de vol parabolique.
Ouais, alors c'est le début de la semaine de vol. Parce que la campagne elle-même, évidemment, elle a commencé il y a un peu plus de 6 mois. Quand on a validé la sélection des expériences, et que les équipes scientifiques ont été informées de leur participation.
Et vous, qui êtes-vous, Sébastien Rouquette ?
Alors moi, je suis responsable du programme des vols paraboliques au CNES. C'est un peu la partie orchestration en fait, des campagnes entre les scientifiques, Novespace et l'agence spatiale qui promeut en fait, les activités scientifiques et techniques.
Alors, on va monter par la passerelle arrière, et puis une fois dedans, vous nous expliquerez à quoi ressemble cet avion, qui est un A310.
C'est ça. Donc c'est un peu notre vaisseau spatial, quoi. Voilà. Voilà, on arrive à la passerelle.
Jusqu'ici, tout est normal. On monte les escaliers comme on monterait dans un avion. Albert Einstein nous accueille avec sa citation de 1919.
À ce moment-là, la pensée la plus heureuse de ma vie m'est venue sous la forme suivante. Le champ gravitationnel n'a qu'une existence relative. Car si l'on considère un observateur en chute libre, par exemple du toit d'une maison, il n'existe pas pour lui de champ gravitationnel lors de sa chute, du moins dans son voisinage immédiat.
Bonjour, donc Langlois, Hélène, pas de symptômes de Covid, vous n'êtes pas sujet contact à risque, eh bien alors ça va être possible.
Il faut remettre les chaussons ?
Non, c'est pas la peine de les remettre à ce stade. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Pas de symptômes de Covid actuellement ?
Non.
Et puis vous n'êtes pas sujet contact à risque ?
Non plus.
Eh bien, bienvenue à bord.
Merci beaucoup.
Voilà.
Alors, on va s'arrêter juste là. nous voilà dans cet avion qui n'est pas tout à fait comme un avion normal, même s'il reste quelques rangées de sièges. C'est un laboratoire, c'est ça, cet avion?
Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est un laboratoire volant, interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que des expériences d'une seule thématique. On accueille ici vraiment tout un tas d'expériences scientifiques dans des domaines vraiment très variés. Donc, effectivement, une partie arrière avec des sièges pour les phases de décollage et d'atterrissage. Et puis, dans la partie centrale et vers l'avant, ce qu'on appelle la zone expérimentale, qui est capitonnée, sans siège, et sur laquelle sont installées les expériences scientifiques.
On va s'avancer un petit peu, vous allez peut-être nous décrire. C'est un espace très blanc, on voit que dans un laboratoire.
Alors voilà, c'est ça. Là, on arrive dans la zone expérimentale. On n'a maintenant dans l'avion que des personnes en combinaison de vol. Le sol est parfaitement nettoyé, en fait. Il n'y a plus du tout de tout ce qu'on trouvait hier, les caisses à outils qui étaient là encore pour finaliser la préparation des expériences. Là, on n'a plus que le matériel expérimental qui va voler pendant le vol parabolique, donc sur cette campagne-là. Donc uniquement le matériel de vol et les personnes qui sont aujourd'hui accréditées pour ce premier vol.
Et donc, comme dans la Station Spatiale Internationale, tout, absolument tout, est accroché ou vissé ou avec du velcro. Rien ne doit être libre.
Alors effectivement, ça c'est une des contraintes majeures en fait de cette activité, c'est que tout doit être parfaitement harnaché. Il y a des matériels qui sont lourds, hein. On le voit là, il y a une expérience avec des vélos, ce qu'on pourrait qualifier de vélos d'appartement. Alors c'est plusieurs dizaines de kilos. On peut imaginer les dégâts que pourraient faire des engins comme ça s'ils étaient lâchés en micro-pesanteur. Alors on dit souvent en free-floating, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver une traduction en français pour ce terme-là, mais qui flottait librement dans la cabine au moment des ressources. Le matériel tomberait forcément lourdement au sol, éventuellement sur les expérimentateurs. Donc tout ce qui est châssis expérimental est parfaitement fixé au sol de l'avion.
Et alors on voit des filets, comme les filets des cages de football. À quoi ça sert?
Alors ça, il y a des filets pour diverses raisons. Alors, premièrement, on a quelques filets au milieu de la cabine qui sont là pour protéger un matériel qui, lui, pour le coup, va être lâché en free-floating. Alors, des petits vaisseaux, en l'occurrence, là, une expérience d'étudiant. C'est un petit vaisseau dont on va étudier le comportement pendant les phases d'impesanteur. Et puis, il y a une autre zone de filet à l'arrière, qui là, c'est un petit peu la cage à écureuil. C'est la zone où les expérimentateurs peuvent venir se défouler. Lorsqu'ils font une pause entre deux paraboles ou lorsqu'ils ont fini leur travail, ils peuvent venir goûter aux joies de l'impesanteur en se lâchant dans cette zone-là.
Des avions comme celui-là, il en existe beaucoup au monde?
Alors des avions comme celui-là, si je suis un peu chauvin, je vais dire non, il n'en existe pas d'autres. C'est un peu une fierté européenne quand même, cette activité, parce qu'on est les seuls à proposer cette activité de cette manière. Les Américains ont disposé de moyens d'essai identiques ou similaires en fait à celui-là, avec des avions plus petits. Mais aujourd'hui, la NASA s'est un petit peu désengagée d'un point de vue opérationnel et c'est une société privée qui exploite un avion aux États-Unis. Ils font surtout du tourisme spatial. Donc je vais dire des vols de découverte comme on les propose avec R0G. En Russie aussi, il y a un avion qui propose ce genre d'activité, mais là encore, c'est un montage opérationnel qui fait surtout du vol de découverte, du vol touristique, et plus tellement de vols scientifiques. Donc au monde, cette organisation autour de Novespace et des agences spatiales européennes, elle est unique, exceptionnelle.
Attention, please sit down for some seatbelts. We'll push right now.
Mesdames et messieurs, vous voudrez bien nous accorder quelques minutes d'attention à l'occasion de la démonstration du matériel de sécurité. Ladies and gentlemen, please pay attention to the safety demonstration. Tout d'abord, les ceintures de sécurité.
Le vol 0G ne nécessite aucune compétence particulière. Être en bonne santé suffit. Pour réduire le mal des transports, un médecin propose une piqûre de scopolamine. Il rappelle une consigne utile, conserver la tête immobile pendant les phases d'hypergravité afin de ne pas perturber l'oreille interne. Pour l'heure, tout le monde est sagement sanglé sur son siège, attentif aux consignes. On est prévenu, les toilettes sont condamnées.
En cas de rappel par Mère Nature, un équipement de haute technologie muni d'une poche zippable est à votre disposition sur simple demande auprès de l'équipage de sécurité. Merci de votre attention et nous vous souhaitons un excellent vol.
Mesdames, Messieurs, notre décollage est imminent. Merci de nous assurer que votre ceinture est correctement ajustée. Ladies and gentlemen, we are take-off shortly. Please make sure your seatbelt is properly fastened. Thank you.
Take-off.
Pour obtenir 22 secondes d'apesanteur 31 fois d'affilée, le pilote va réaliser un exercice proche de la voltige, des montées et des descentes avec au sommet l'effet recherché. C'est un pilotage exigeant.
Éric Delossal, vous êtes donc l'un des pilotes de cet avion si particulier. Est-ce que vous pouvez nous décrire la trajectoire, le profil de vol qu'il fait pour obtenir l'effet de la micro-pesanteur ?
Oui, bien sûr, la trajectoire qu'on suit avec cet avion, c'est celle qu'aurait un corps en chute libre dans le vide. On va partir d'une moyenne altitude, 6000 mètres à peu près, à la vitesse maximale de l'avion, puisque le temps de microgravité va être fonction de la pente qu'on a au moment du début de la manœuvre, et de la vitesse qu'on a à ce moment-là. Donc il faut le maximum d'énergie. C'est un peu comme une boule de pétanque, si vous voulez la lancer le plus loin possible, qu'elle reste le plus longtemps possible en l'air, il faut la lancer vers le haut et assez vite. Bon, avec l'avion, c'est exactement ça. Donc il faut qu'on lance l'avion donc, sur cette trajectoire. Le bon compromis qu'on a trouvé, c'est une pente de 50 degrés. Donc on met l'avion sur cette pente ascendante. Le pilote va pousser sur le manche à partir de ce moment-là pour aller chercher le 0G. Et on va passer à au niveau 300, ce qui fait 8400 mètres d'altitude, et on va redescendre jusqu'à retrouver notre altitude initiale. Le total dure environ une minute, il y a 20 secondes de ressources pour aller chercher 50 degrés, 20-22 secondes de microgravité, et encore une vingtaine de secondes pour récupérer l'avion.
Ces paraboles, ça fait un peu des montagnes russes si on devait les dessiner.
Ouais, exactement, ça fait comme un dos de chameau, quoi, une parabole comme ça. Et on fait des séries de 5, et chaque lancement est espacé de 3 minutes.
Quand vous poussez le manche ou que vous le tirez, vous êtes aidé par un pilote automatique ?
Alors c'est ça qui fait, enfin bon, c'est le pilote qui parle, le gros intérêt de cette mission, c'est que tout est manuel. Et même plus, on déconnecte un certain nombre d'aides au pilotage qui équipent normalement cet avion, puisque mettre un avion de ligne à 50 degrés de cabré, bah, c'est pas du tout prévu. Donc il y a sur cet avion des protections pour éviter ça, et bah, qu'on est obligé d'enlever, puisque nous on y va volontairement. Quoi. On est une équipe de pilotes très spécialisée pour cette mission très spécialisée, ouais. Voilà, il y a un groupe de 7 pilotes régulièrement entraînés, dont un qui n'est pas là en ce moment, puisque c'est Thomas Pesquet, et on l'excuse, son excuse est valable. Mais bon, il devrait revenir avec nous, on l'attend avec impatience. Et sinon, donc, on est 6 à tourner en ce moment. Donc on est 3 aux commandes en même temps. Pour chaque vol, on embarque à 4, parce que les vols sont quand même assez fatigants, du point de vue de la tension nerveuse, et puis vous avez parlé un peu de la partie physique aussi. Tout se fait à la main. Aujourd'hui, dans l'aéronautique, on développe beaucoup d'automatisme. Et là, on fait tout à la main, en enlevant en plus les aides au pilotage. Donc, c'est ben voilà, quand on aime piloter, et le pilotage manuel, c'est un régal. Quoi. Et en plus, c'est un pilotage qui demande une extrême précision. Donc, c'est extrêmement intéressant à faire comme vol.
Tout le monde est sur ses expériences. Pour cette troisième parabole, je suis dans la cage de free floating. Donc je m'allonge. Je ne suis pas attaché, mais il y a un filet. Je peux me tenir. Là, mon corps pèse deux fois mon poids. Je suis plaqué au sol, c'est extrêmement lourd. L'avion est cabré.
30. Comment tu dis ?
Dans un moment, je ne vais plus sentir mon poids. Voilà. Et je flotte. Extraordinaire. Là, je vais redescendre, m'allonger.
Suivant les campagnes de vol, entre 10 et 15 expériences sont menées. Tous les expérimentateurs sont habillés d'une combinaison bleue. À tout moment, les responsables de la sécurité, en orange, sont prêts à intervenir pour amortir une mauvaise réception, veiller au respect des règles et surveiller qu'aucun objet ou outil flottant ne se transforme en projectile dangereux.
Toujours pas malade ? Si tu n'as pas été jusqu'ici, tu ne devrais pas l'être maintenant. Hein ?
Ce jour-là, après avoir enfilé un short de cycliste, deux volontaires enfourchent un vélo d'appartement.
Les pompiers par rapport à la pédale, là.
Étienne Guillot, les équipes de capteurs. Il est chercheur à l'Institut de neurosciences cognitives et intégratives à Bordeaux.
Par contre, il faut faire attention de ne pas pédaler, pas s'entraîner avant d'être en 0G là.
Avec le Québécois Laurent Bouillet, ces scientifiques veulent savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne confrontée à une tâche nouvelle. En l'occurrence, ici, pédaler sur un vélo au pédalier asymétrique.
Ça va très bien, c'est vraiment différent d'au sol.
C'est vrai?
Oui.
C'est physique, non, mine de rien?
Le 2G est difficile dans cette position-là.
Mais vous ne pédalez pas pendant cette phase-là, hein?
Voilà, on pédale pendant le 0G, puis là, c'est comme dans une piscine, on flotte un peu.
Donc vous allez, vous, le faire pendant toutes les paraboles, 31 fois?
Non, à mi-chemin, on change. Voilà.
Laurent Bouillet, vous êtes professeur de médecine, c'est ça, à l'Université de Laval, dans un département de neurosciences.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites là, précisément?
Alors, ce qu'on étudie ici, c'est comment on apprend un nouveau mouvement. Normalement, quand on apprend un nouveau mouvement, on va servir l'information qui vient de nos muscles et de nos tendons. Quand on est en apesanteur, on n'a plus l'information des tendons, on a juste l'information des muscles. Donc, cette expérience-ci nous permet de voir si on essaie d'apprendre en apesanteur, est-ce qu'on est aussi bon, moins bon. Notre hypothèse à nous, c'est qu'on va être moins bon à apprendre en apesanteur parce qu'on n'a pas l'information de nos tendons. Et ça, ça nous permettra, par la suite, d'aider pour la rééducation des gens qui ont eu, par exemple, une lésion de la moelle épinière, un accident vasculaire cérébral. Quand ils doivent réapprendre à marcher, pour améliorer leur réadaptation, on va pouvoir savoir comment faire. Par exemple, si notre hypothèse est vérifiée, on pourra mettre plus de poids sur eux quand on les entraîne pour les aider à récupérer plus vite, que cette information sensorielle-là puisse les aider plus.
Est-ce qu'une seule campagne de vol parabolique va suffire à valider ou invalider votre hypothèse?
Ça va nous donner un point de départ, mais on prévoit faire une autre campagne l'an prochain et des expériences complémentaires au sol pour s'assurer qu'on a suffisamment d'informations. Mais oui, ça nous donne un très bon point de départ.
Et vous ne visez que une application médicale pour la réadaptation éventuelle, justement, de ces personnes, comme vous le disiez?
Il y a ça, et il y a aussi notre compréhension fondamentale du fonctionnement du système nerveux pour contrôler le mouvement.
On vous laisse pédaler, on revient tout à l'heure.
Merci. 30
secondes. Il y a une quarantaine de passagers pour ce vol qui dure 3 heures, des habitués, des novices. Il y a même quelques étudiants. Le physicien Étienne Klein a participé à cette campagne de vol. Il décrit à Sophie Becherel son ressenti lors de ces phases d'impesanteur. C'est le terme scientifique de ce que le grand public connaît comme la pesanteur.
Moi, ce que je voulais voir, c'est, certes, quand on est en impesanteur, on ne sent pas son poids. Mais la question que je me posais, c'est, quand on ne sent pas son poids, comment est-ce qu'on sent son corps? Autrement dit, quel rôle joue la gravitation dans la perception que nous avons de notre propre corps? Par exemple, ma main est devant moi, je vois que ma main appartient à mon corps et je le sens. En impesanteur, mon bras ne pèse plus. Est-ce que le sentiment d'appartenance de ma main va être aussi fort? Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas tellement l'impesanteur, parce qu'au bout de trois fois, j'ai compris qu'on était en train de flotter, en effet. C'est vraiment agréable, hein, tous les gens ont la banane.
Ce qui m'a impressionné, on sent son corps.
Voilà, on sent vraiment son corps, on le sent quand même, mais pas tout à fait de la même façon. Mais ce qui m'a impressionné plutôt, c'est les phases d'hypergravité, c'est-à-dire quand on grimpe. Enfin, l'avion grimpe à 45 degrés avec une accélération qui est deux fois l'accélération de la pesanteur. Et là, on sent vraiment son poids. J'ai l'impression que plus l'accélération est importante et plus on a le sentiment d'avoir un corps. Par exemple, quand on lève le bras, bah, c'est quasiment de la musculation. J'ai essayé de chanter. Le fait d'ouvrir la bouche fait que la mâchoire est attirée vers le bas et c'est un effort musculaire. Enfin, chanter devient un sport, un vrai sport. J'ai essayé de faire des pompes en phase d'hypergravité. J'ai pas été très très loin dans le décomptage. Même l'estomac, on le sent pas directement. On sent pas le poids de l'estomac, mais on sent la réaction qu'induit le poids de l'estomac sur les organes qui sont sous l'estomac. Donc tout devient plus pesant, la cage thoracique, etc. Et j'imagine, par extrapolation, ce que peuvent ressentir les pilotes de chasse qui, eux, prennent 4, 5, 6 G, je crois. Et musculairement, physiquement, ça doit être une épreuve très, très difficile.
Dans l'avion 0G, la recherche est centrée sur trois grands domaines. La physiologie humaine, les technologies spatiales et la physique des matériaux. Dans l'espace, rien ne se comporte comme sur Terre. Et c'est précisément ce qu'explore Catherine Collin avec ses étudiants en thèse. Catherine Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Institut de mécanique des fluides, c'est
oui.
ça, de Toulouse.
Oui.
Ça n'est pas votre premier vol dans l'avion 0G. Et donc, vous étudiez la mécanique des fluides. Qu'est-ce que
voilà.
vous
les
cherchez là à rentrer aujourd'hui?
Les transferts de chaleur. On fait bouillir un fluide. Et les applications spatiales, c'est le refroidissement des composants électroniques dans les ordinateurs, par exemple, ou dans les satellites. Donc, on essaye de comprendre comment on va extraire de la chaleur en faisant bouillir un fluide. Donc, vous pourrez regarder sur la caméra, il y aura donc de la vaporisation du liquide sous forme de bulles, de différentes structures, et on étudie les transferts de chaleur, donc l'énergie qu'on va pouvoir extraire.
Et pourquoi cet avion en microgravité vous est-il indispensable?
Pour comprendre comment ça se passe dans l'espace, parce qu'on a des systèmes qui marchent bien sur Terre, mais dans l'espace, les fluides se comportent de manière complètement différente. L'air et l'eau, par exemple, si on prend un réservoir avec de l'air et de l'eau, on va avoir de l'air en dessous, de l'eau en dessous. En microgravité, c'est pas du tout ça. C'est le whisky du capitaine Haddock, c'est une grosse bulle, c'est des grosses bulles de gaz. Et en passage de 2G, 1G, 0G, ça change complètement la configuration d'écoulement.
Et aujourd'hui, donc, les applications, c'est surtout pour l'industrie spatiale?
Pour le transport, c'est-à-dire les lanceurs, les fusées, où on a besoin de savoir comment se comportent les fluides quand on veut réallumer un moteur de lanceur. Pour Ariane 6, où on aura besoin de rallumer les moteurs de lanceur en microgravité, on a besoin de savoir comment se comportent les fluides.
Et pour les satellites, où est l'application?
Pour les satellites, c'est le refroidissement des composants électroniques. Donc si on est plus efficace, bah, ça coûte moins cher, parce que tout kilo envoyé dans l'espace, c'est très cher.
Aujourd'hui, où on parle de ces centres de calcul gigantesques, par exemple, c'est une des questions.
Ça, c'est un des problèmes aussi, ouais. Il faut refroidir. Alors pour l'instant, on refroidit avec des systèmes qui sont sans changement de phase, mais qui sont très lourds et pas forcément très efficaces. Donc il y a vraiment des possibilités d'amélioration là-dessous.
Le changement de phase, c'est passer d'un état à un autre, du liquide à la vapeur,
du liquide à la vapeur, et ça, c'est beaucoup plus efficace que de réchauffer un fluide, extraire la chaleur d'un fluide qu'on fait circuler comme dans du chauffage central dans une maison par exemple. Ça, c'est pas très efficace. Le transfert de chaleur peut être 100 fois plus efficace quand on fait un changement de phase.
Qui vos recherches intéressent-elles hormis le monde académique?
Elles intéressent les industries, donc on travaille avec Air Liquide par exemple sur le comportement des réservoirs d'Airbus dans Ariane. On a travaillé avec Snecma Moteur et on travaille aussi avec Thales pour les boucles de refroidissement des satellites. Et nous, on travaille aussi beaucoup avec l'industrie nucléaire, où la compréhension de ces mécanismes aide pour la problématique de sûreté nucléaire dans les réacteurs, par exemple. VHF, vous faites le Bagnou.
Aller un peu plus loin dans l'avion où il y a quatre jeunes hommes en combinaison bleue qui testent le déploiement automatique d'une antenne repliée. Là encore, c'est une application qui pourrait servir au secteur spatial, de la même manière qu'on envoie des panneaux solaires pliés, ce qui permet de gagner de l'espace. Là, c'est une antenne, c'est un peu un jeu d'origami. Il n'y a pas une coupole en métal, mais une espèce de toile d'araignée, un réseau de fils entouré de bâtonnets. Ça, c'est quand c'est plié. Et donc, si on déplie cette structure en fagot, on a une forme de parabole, mais évidemment très différente, puisque l'antenne en elle-même sont des fils métalliques. Et ce que testent ces ingénieurs, c'est la capacité automatique de déployer cette antenne et de faire en sorte qu'elle se déplie correctement. Mehdi Sodki, vous êtes ingénieur en mécanique au CNES et vous supervisez donc cette expérience. En quoi consiste-t-elle ?
Donc aujourd'hui, nous, on essaie de déployer un réflecteur pour CubeSat. Donc un CubeSat, c'est un petit satellite. Il faut imaginer à peu près la taille de deux packs de lait, on va dire. Et lorsqu'elle est repliée sous la coiffe du lanceur, on cherche à être le plus petit possible. Et là, on a un fagot de 10 cm de diamètre sur 15 cm de haut.
C'est le principe de la tente Téchois.
Tout à fait.
En quoi la campagne de vol en microgravité vous est-elle utile ?
Notre concept est bien abouti, donc on a une conception assez fine. Par contre, notre équipement ne fonctionne que sur orbite, sans gravité. C'est-à-dire que si on le déployait au sol aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il se déploierait mal ou qu'il s'endommagerait. Lorsqu'on va le déployer dans l'espace, il devrait bien fonctionner.
Est-ce qu'il s'agit d'un véritable instrument qui va équiper des satellites ou pour l'instant c'est un prototype ?
Alors aujourd'hui on en est au stade de concept, c'est dans le programme de recherche et développement du CNES. Et ce que le CNES souhaite, c'est atteindre un certain niveau de maturité avant de le confier pleinement à l'industrie qui lui en fera ensuite un produit qui équipera des satellites.
Jusqu'ici, là, les premières tentatives, ça a fonctionné ?
Les deux premiers déploiements ont bien fonctionné et sur le premier déploiement du second modèle, on n'est pas pleinement satisfait.
Pas facile de résister à ces trajectoires en dos de chameau, surtout quand on a les organes secoués et le petit déjeuner au bord des lèvres.
Ils ont tous les deux envie de vomir en fait. Ils ont tous les deux envie de vomir. Et encore demain et après-demain.
Le baptême de l'apesanteur pour les volontaires comme Julie, étudiante en médecine, n'est en rien une partie de plaisir. Elle est sanglée sur un lit d'examen, le torse bardé de capteurs.
Ça va pour vous ? C'est pas trop inconfortable ?
Oh non, ça va.
Vous avez des lunettes ?
Je suis un peu saucissonnée, mais ça va.
Vous avez des capteurs, des sangles. C'est de l'oxygène qui vous arrive dans le nez ?
Je pense.
On mesure des gaz respiratoires, notamment du CO2. Pendant la manip, on fait plusieurs mesures. On fait des mesures de physiologie, voir comment l'adaptation de la pression artérielle, des fluides dans le corps se passe. On mesure les différences de transfert de fluides, on mesure la pression artérielle et en parallèle, on mesure par l'échocardiographie la forme du cœur, les changements de forme du cœur pendant les phases de gravité. Comme c'est des phases très brutales, on s'attend à des variations assez brutales.
Qui êtes-vous ?
Moi, je suis Amir Rozic, je suis cardiologue et chercheur à l'Université de Caen. Et je travaille avec Hervé Normand justement sur ces thématiques d'adaptation cardiaque aux contraintes gravitaires dans notre laboratoire Comet à Caen.
C'est très différent le comportement du cœur en absence de pesanteur.
C'est ce qu'on essaye de déterminer. Il y a déjà eu des études au préalable qui ont montré que les dimensions du cœur s'adaptent. Tantôt il va descendre en fonction de la position ou remonter le sang avec les contraintes de gravité. Du coup, on s'attend à ce qu'en effet, la forme du cœur, une fois libéré de sa masse, va changer. Donc c'est ce qu'on essaye de voir un petit peu avec l'échocardiographie 3D. Ça nous permet d'avoir les volumes cardiaques, c'est-à-dire le volume du cœur, mais aussi sa forme.
Donc
pour voir un petit peu comment le cœur va se comporter une fois libéré de sa masse.
On va revenir vous voir après, on vous laisse finir d'équiper la volontaire.
Si vous pouvez mettre de chaque côté de la sangle, vous pouvez vous attacher. Écoutez, juste décalez-vous, vous pouvez vous tenir à la sangle, voilà.
CHU de Caen.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet avion ?
Bien, en fait, on fait une recherche sur les modifications de la forme du cœur en apesanteur avec une technologie particulière qui est une technologie d'imagerie 3 dimensions. Et on regarde comment les transferts liquidiens qui se passent dans l'apesanteur vont affecter la forme et les indices de performance du cœur.
Ça ne concerne que les astronautes ou ça nous concerne, nous, sur Terre ?
Non, ça concerne tout le monde parce qu'on est... On cherche toujours des indicateurs fiables de la fonction myocardique, comment fonctionne le cœur. Et dans les outils que l'on a en ce moment, parfois chez des sportifs qui ont des cœurs assez développés, c'est assez difficile de faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Et on pense que la gravité est un des éléments qui intervient dans le calcul de ces indices. On essaie de regarder si les indices classiques qu'on utilise pour évaluer la fonction myocardique sont modifiés par la gravité. Parce que ça nous permettrait d'en découvrir de nouveaux qui soient le plus possible indépendants des conditions de fonctionnement du cœur. Avec, chez l'homme normal, une idée qui est de distinguer le développement pathologique du cœur d'un développement normal qu'on observe sur le sportif. Et d'un problème d'échographie de tous les jours avec les sportifs surentraînés, par exemple.
Ça permettra de mieux diagnostiquer d'éventuels problèmes sur le cœur.
Sur le cœur, oui.
Ou de ne pas considérer comme malade quelqu'un dont simplement le cœur...
Qui est en fait simplement un cœur qui fonctionne de façon différente.
Ça n'est pas votre première campagne parabolique ?
Non, non.
Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence dans cet avion ?
Alors, on a pu mettre en évidence dans les précédentes campagnes, par exemple, que le baroréflexe, c'est-à-dire le système qui nous permet de contrôler la pression artérielle, est influencé par le système vestibulaire. Quand on passe de la position allongée à la position debout, on a un énorme changement de volume du sang. On a du sang qui tombe dans les pieds, en quelque sorte. Donc, on a un système très connu qu'on appelle le baroréflexe, qui permet d'adapter le fonctionnement du cœur et surtout le fonctionnement des vaisseaux au fait que le sang tombe à l'intérieur. Mais ce qu'on a montré, nous, c'est que le système vestibulaire, qui lui repère une position dans l'espace, est aussi capable d'agir sur ce système.
On voit bien que ce sont des recherches assez fondamentales sur le fonctionnement, oui, de notre corps, sur la physiologie. Mais est-ce que ça a déjà eu ou est-ce que ça peut avoir des applications pour traiter les gens ?
Oui, comprendre par exemple pourquoi un certain nombre de personnes, quand ils se mettent debout, ont la tête qui tourne. C'est quelque chose qui est très fréquent, en particulier chez les gens âgés. Il se trouve justement que le système vestibulaire a une fonction qui se détériore avec l'âge. Donc il est possible que ça ait un rapport avec la détérioration de la fonction vestibulaire. Peut-être que des drogues qui amélioreront la sensibilité du système vestibulaire auront aussi un effet sur le contrôle de la pression artérielle.
Est-ce que cet avion vous est indispensable ? Les expériences que vous menez dans l'avion ne pourraient pas être menées au sol ?
Non, en particulier sur le système vestibulaire, la seule façon de soustraire le système vestibulaire à la gravité, c'est l'espace sous les vols paraboliques. On ne peut pas faire autrement. 5, 3,
2, 1, pull-up. Mesdames, Messieurs, regardez où est le micro.
Sur Bordeaux, merci de regagner votre siège, redresser le dossier à la verticale et d'attacher les ceintures. Je vous demande également de redresser les cachets.
Une fois revenus à Bordeaux, les équipes ont peu de temps devant elles pour se reposer. Les séances de débriefing sont prévues l'après-midi même. Le lendemain, certains scientifiques pourront embarquer à nouveau pour poursuivre, peaufiner leurs expériences et affiner la collecte de leurs précieuses données. Nous retrouvons Sophie Becherel et Hélène Langlois, mais cette fois sur la terre ferme.
Interception. Sur France Inter.
Le débriefing pour les expérimentateurs est prévu à 13h30.
Tant que le vol est fait, on se retrouve dans le hangar d'R0G. On va aller voir avec certaines équipes le débrief, si ça s'est bien passé, à commencer par Christophe Morat.
C'est compatible, c'est du caoutchouc néoprène, donc ça c'est compatible, c'est pas un problème.
C'est compatible caoutchouc et alu aussi.
Oui. Caoutchouc et métal, c'est multi-substrat et j'ai regardé les compatibilités derrière, c'est bon. Et là, je me dis qu'en fait, vu le format, une bande de double face collée dessous et avec la pression, ça devrait suffire à faire l'étanchéité.
D'accord, en effet.
Christophe Morat, à Novespace, vous êtes le coordinateur de vol et fait le débrief. Là, on voulait voir avec vous.
Ouais.
Vous êtes en train justement de bricoler un nouveau truc ou...
Bricoler, on bricole pas ici. On fait de la science. Non, là, on est en train d'aider une équipe de jeunes qui doit voler jeudi. On a finalisé l'étanchéité d'un petit aquarium. Voilà. Donc effectivement, on bricole un peu, ouais.
Toutes les campagnes se ressemblent ?
Toutes les campagnes scientifiques, ouais, se ressemblent, ouais, tout à fait. Les campagnes scientifiques standards, c'est une première semaine où on réceptionne toutes les expériences, on les revoit, on les installe à bord de l'avion. Et une deuxième semaine, comme cette semaine, où on fait trois vols, le mardi, mercredi, jeudi, trois vols de 31 paraboles. Ça, c'est du standard scientifique.
Et les choses les plus abracadabrantesques qu'on vous a demandé, c'est quoi ? Là, je vois que vous avez un aquarium qui va voler dans cet avion, c'est pas simple ?
Non, c'est pas très compliqué, c'est une expérience étudiante, c'est une expérience plutôt pédagogique. Après, en termes scientifiques, je dirais pas que c'est abracanana, c'est compliqué à dire, parce que c'est sérieux quand même ce que font les scientifiques. C'est plutôt, on fait de temps en temps quelques vols un peu particuliers. Ça nous arrive de faire des vols pour le cinéma, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu plus original que ce qu'on peut voir dans le domaine scientifique.
Très bien. Bon, alors bon bricolage.
Merci beaucoup. ouais, ça me semble pas mal ça.
Je pense que si on peut se débrouiller comme ça, c'est pas plus mal. Hein.
Ouais. Il faut voir si on fait un essai.
Mieux que le
Nikon
dégueu. Dans l'autre sens.
Non, mais de toute façon, on va le refaire. C'est juste pour faire un essai.
Déjà, je vais dégraisser avant.
Ouais.
Alors, juste à côté, il y a Catherine Collin, assise sur une chaise. Et face à son ordinateur.
Ouais.
Catherine Collin, vous êtes satisfaite de votre première journée de vol ?
Oui, mais on a quelques soucis avec quelque chose qui ne marche plus en fin de vol, une pompe. Donc, on espère pouvoir réparer d'ici demain.
Oui, donc c'est comme le Tour de France ou comme une course à la voile, il faut réparer le lendemain.
Réparer, voilà, c'est ça. Voilà, autrement, le reste du vol, ça a bien marché, ouais. On a des bonnes données. Mais bon, on est soucieux pour pouvoir réparer pour demain. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a là. Merci.
Alors là, c'est l'équipe cardio, ça.
Oui.
Allez, on va aller voir l'équipe cardio.
J'ai essayé de réparer ce que j'ai pu, j'ai même pas vu qu'ils n'avaient pas de courant sur leur écho.
Non, c'est ça.
T'es tellement pris dans ton truc, t'es tellement à la tête dedans que
Quel bilan là vous tirez de votre première matinée de vol ?
Ah, c'est plutôt bien, on a raté deux paraboles, trois paraboles peut-être. Et en fait, c'est pas notre faute l'écran noir, c'est une panne au tableau avant de l'avion. Donc chacun de notre côté, on a essayé de réparer sans penser une seule seconde que ça pouvait être l'alimentation générale.
Et alors, vous les cardiologues, vous avez un premier constat là ? Comment vous l'avez vu ce cœur en trois dimensions ? Ces cœurs en trois dimensions ?
Alors, on a regardé en temps réel pour avoir une certitude d'avoir suffisamment d'images à traiter, mais derrière, il y a besoin de post-traiter les images une fois qu'on aura fini les vols.
Ami Rodzik et Eric Salou.
Et puis, la difficulté, c'est que chaque sujet est différent à la fois de la position du cœur et ce que devient le cœur pendant la période d'apesanteur, enfin de microgravité.
Cardiologue au CHU de Caen.
La cage thoracique change de volume, elle devient plus circulaire, et le cœur va se déplacer 2, 3, peut-être 4 cm. Et ça change complètement la façon dont ils doivent orienter la sonde pour récupérer le même type d'image.
Ce matin, il m'a semblé que ce n'était pas si simple à faire, les échographies. Hein. Vous cherchiez vraiment les cœurs.
Ça bouge beaucoup. Et puis, faire une échographie assise, en clinique, on ne le fait jamais parce que c'est une position qui ne nous permet pas de bien voir le cœur et sa fonction. Et puis là, on s'intéresse à plusieurs parties du cœur, dont une partie, la partie droite, qui est assez rétrosternale, le sternum qui est un os, et qui est assez difficile d'accès de manière générale en clinique. Du coup, on s'est mis un peu de challenge, d'une part de le faire en position assise, qui n'est pas une position facile, de voir toutes ces parties du cœur en trois dimensions. La trois dimensions nécessite d'avoir une belle image pour pouvoir vraiment mesurer de manière objective. Et puis pendant les phases de variation de gravité, le cœur il bouge, donc on est obligé de le suivre, de réaxer, en plus de gérer les apnées et la respiration qui elle-même déjà influence l'interaction cœur-poumon. Donc c'était pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu d'expérience en échographie et puis pouvoir s'ajuster rapidement, le plus rapidement possible pour pas rater la
paramètre. Mais ça viendra. Je pense que ça viendra dans moins de 10 ans, on montrera des 3D dans l'espace.
Oui. Donc l'intérêt du 3D, c'est effectivement, malgré le fait que le cœur va changer de position, on pourra toujours avoir des vrais volumes. Alors que si on n'a qu'une vue en deux dimensions de quelque chose qui bouge et qui a une forme particulière, les volumes sont forcément faux.
Quand on a un sportif, quand il vient, qu'on l'évalue, en effet, en fonction de sa charge d'entraînement, son cœur va s'adapter. Un malade, son cœur aussi va s'adapter, mais c'est une désadaptation progressive vers la maladie. Mais à un moment donné, les deux peuvent se ressembler. Ils ont un phénotype similaire. Et l'intérêt d'avoir des évaluations un peu plus précises de la fonction et de la mécanique cardiaque nous permettent précocement, avant que la maladie soit installée et qu'on ait du retard, de dire ça c'est plutôt un cœur qui s'adapte de manière physiologique, de manière normale, et ça c'est plutôt un cœur qui est mal adapté et qui va finir par une insuffisance cardiaque. Et ces outils-là, il faut qu'on les teste, parce que tous les outils qu'on utilise en échographie et en clinique, ils sont très dépendants de plein de choses, de leur environnement, des variations de volume intracardiaque, des pressions. Et si ces indices-là, on leur fait confiance de manière aveugle, on peut dire des choses qui ne sont pas vraies.
Toutes ces expériences ne sont pas destinées à aller dans une station orbitale. Les 22 secondes d'apesanteur, répétées quelques dizaines de fois, suffisent parfois à mettre en évidence des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques fondamentaux. C'est aussi dans cet avion que les astronautes européens, une fois sélectionnés, ont vécu leur toute première expérience d'apesanteur. Une expérience de pensée pour Albert Einstein, devenue cette réalité résumée par Sébastien Rouquette, le responsable des vols paraboliques au CNES.
Pour résumer, tout se passe comme si on supprimait la gravité dans cet avion. Bon, bien entendu, on ne la supprime pas vraiment, parce qu'on ne peut pas supprimer la gravité, qui est la force d'attraction de la planète Terre sur les objets qui l'entourent, y compris un satellite en orbite, une station orbitale, ou même la Lune. Donc la gravité, on ne peut pas la supprimer. Mais on a eu l'intelligence d'utiliser un moyen d'essai qui est un avion et de faire en sorte que sa trajectoire soit une trajectoire, alors on appelle ça une trajectoire inertielle ou balistique, donc une chute libre au sens d'Einstein. Donc on tombe du toit en permanence avec notre avion et on se retrouve dans la même situation que si on avait supprimé la gravité. Et Einstein va même plus loin en disant que pour un observateur qui serait dans une chambre, alors on va dire dans un ascenseur, un petit peu plus d'un siècle plus tard, qui serait dans un ascenseur immobile au fin fond de l'univers, dans l'absence de champ gravitationnel, et un observateur dans le même ascenseur, en chute libre dans un champ gravitationnel, les deux observateurs sont incapables de distinguer les deux situations. Donc c'est vraiment ça, en fait, la richesse organisation là, des vols paraboliques, c'est de nous placer dans une situation qui est tout à fait comparable à l'absence de gravité. Donc ce n'est pas l'absence de gravité, mais c'est comme si on était en absence de gravité. Donc c'est vraiment génial de pouvoir d'avoir eu l'idée de créer cette situation pour utiliser la trajectoire et supprimer la pesanteur.
L'avion est en train de se cabrer. Et voilà, commence la période de G où le corps plaqué au sol et on a la sensation de peser deux fois son poids. Et voilà la phase d'apesanteur. Hop là, on remonte au plafond. Hop là, c'est tout à fait extraordinaire. C'est pas comme dans la mer, c'est pas comme dans l'air, c'est quelque chose d'unique. Voilà, je redescends. Alors Hélène, comment tu décrirais cette sensation ?
J'avais vraiment l'impression d'être écrasée la mâchoire contre le sol là. Tu pouvais plus parler. Et après, non, c'est tu voles mais tu sais plus où tu es. Si t'as la tête en bas ou la tête en haut.
Pourtant tu es toujours restée la tête en haut. C'est génial, non ?
C'est génial.
Un grand merci à Hélène Langlois pour cette prise de son en apesanteur, pour ce reportage de Sophie Becherel, la spécialiste scientifique de France Inter. Vol en apesanteur, la science sans gravité. Ce reportage a été réalisé par Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Benjamin Vignal. La semaine prochaine, émission consacrée à l'ultra-gauche en France.